Deutsche Welle Forum der Kultur.
El gusto, c'est la joie de vivre, la bonne humeur en espagnol. C'est aussi le nom du premier long-métrage de Safinés Bousbia. Pendant 3 ans, la réalisatrice algéro-irlandaise est partie sur les traces de la musique shaabi et de ceux qui l'ont joué à ses débuts. Safinés Bousbia est l'invitée de ce Forum des Cultures. Bonjour et bienvenue. Fin mars, la Maison des Cultures du Monde de Berlin a organisé un festival du film consacré exclusivement au cinéma algérien et intitulé « L'Algérie après 1954 ». Parmi les jeunes cinéastes invités, Safinés Bousbia, qui est venue présenter son premier long-métrage « El Gusto ».
J'étais en Irlande et une copine à moi me dit « On a voyagé un peu le monde ensemble, mais jamais en Algérie, ce serait temps qu'on aille visiter la ville ». Et je lui dis, écoute, je connais pas très bien la ville. Elle me dit, reste en plus, on va aller la découvrir ensemble. On a été vraiment comme des purs touristes, aller dans les ruelles d'Alger et en se baladant dans la Casbah, je vois un miroir accroché à une échoppe. On rentre pour acheter le miroir et le miroitier était beaucoup plus intéressé à raconter son histoire qu'à vendre le miroir. Il commence. Moi, j'étais un grand musicien de l'époque et il sort son album noir et blanc, des photos des années 40. Il nous explique. Sa grande fierté, c'est qu'il a fait partie de la première classe de la musique shaabi, qui se retrouvait à la cave du conservatoire municipal et enseignée par le fondateur de cette musique elle-même, El Hadj El Hanka.
Et donc, alors, à partir de cette histoire qui aurait pu être une anecdote, vous avez décidé de rentrer dans son histoire.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il m'a hanté, ce monsieur, parce qu'il avait une telle passion à raconter son histoire et... Et je sais pas, je pense aujourd'hui avec le recul, c'est ce qu'on disait avec des amis, c'est que on a tous des rêves d'enfants que après les contraintes de la vie nous fait oublier ou les mettre à côté. Et quand on voit des gens qui ont vécu quand même des vies hyper dures et qui tiennent encore à 86 ans ou 80, je sais pas quoi, à leurs rêves d'enfants et ils y croient que ça va venir encore à cet âge-là, je crois que j'étais impressionnée par cela. Et au début, c'était pas pour faire un film ou quoi que ce soit. C'était juste le désir de revoir ses amis. Et je me suis dit, allez, ça va prendre 2 semaines, on va retrouver tout le monde et on va les mettre en contact, c'est tout. Je me suis proposée à partir de là. Sauf que ça a mis 2 ans et demi, à 3 ans, et après, je suis tombée amoureuse. À chaque fois que j'en retrouvais un, je l'en rencontrais, je tombais encore plus amoureuse de l'histoire et je découvrais des choses. Et après, c'était un truc à mener à un autre. Cette histoire était devenue indétachable de la mienne, quelque part.
Et donc, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le shaabi, donc dans le film, c'est clairement expliqué que shaab, ça veut dire c'est le peuple, la population, et qu'effectivement, cette musique, elle était jouée chez les coiffeurs, par les dockers, dans les milieux un peu louches, on va dire. Donc, c'était vraiment la musique pour tous.
Exactement, c'est le pop de l'époque. Non, c'est une musique un peu, je trouve, comme le blues, le fado, c'est les musiques qui ont une expression populaire et qui, au début, est toujours refusée par la société parce qu'elle sort des bas-fonds. Et du coup, non, nous, les sociétés, tout est propre, il n'y a pas de ça. Et du coup, elle est très vite poussée dans les bas-fonds, elle n'existe que dans les bas-fonds. Et ce qui s'est passé en Algérie, c'est que dans les années fin 30, début 40, il y a eu l'arrivée des Américains. Et il y a eu beaucoup de marchés noirs avec le port. Et c'est là où les dockers se sont enrichis. Et avec un pouvoir économique, ils ont soutenu leur musique de choix, qui était le shaabi. Et c'est comme ça qu'elle est sortie au grand jour.
Et donc, à travers donc, l'histoire de la musique, il y a l'histoire de l'Algérie, en tout cas l'histoire d'Alger et de tous ces gens. Vous, qui n'avez pas vécu en Algérie, qu'est-ce que ça vous a appris sur ce pays ?
Pour moi, je me sens très très chanceuse parce que c'était une très belle manière de découvrir la ville. Parce que je crois que je l'aurais aimé beaucoup moins si je ne l'ai pas découverte à travers ces gens-là. Parce qu'on marchait dans les rues et j'avais l'impression de voir la rue, mais de voir autre chose dans la rue. Avec leurs histoires, ça habillait les murs, les ruelles. Parce que la ville n'a plus la même ambiance, la même énergie. Et du coup, c'était une très belle manière pour moi. Et deuxièmement, pour moi, ça a été une vraie lecture très différente de l'histoire. Parce que j'ai beaucoup lu avant, mais l'histoire de l'Algérie est toujours racontée ou par des autorités, ou par des soldats, ou par des victimes de guerre, ou. Et pas par un simple petit peuple, ou des simples musiciens qui juste voulaient vivre et jouer de la musique.
Mais l'histoire, elle est quand même présente, aussi dans leur vie, forcément, et dans la musique, puisque ils sont obligés... alors, il y en a qui sont obligés de s'expatrier, il y en a qui... Enfin, la musique s'arrête aussi, plus ou moins. Et donc, ça, c'est raconté à travers leurs yeux à eux, mais c'est juste une partie du film.
C'était impossible de raconter leur vie sans raconter la guerre, parce que, quelque part, comme ça arrive jusqu'à aujourd'hui, quand la guerre arrive, elle chamboule toute une vie. C'est-à-dire, on a beau être maître de son désir, mais à un moment donné, quand la guerre vient, il y a plein d'éléments qui nous dépassent et qui font changer le chemin de gens, des fois à 180 degrés, sans aucun désir d'eux-mêmes, des fois. Et c'est ce qui s'est passé à ces musiciens. Et je trouve qu'ils se sont très bien en sortie parce que, au lieu de devenir aigris, malheureux, ils n'ont pas du tout ce discours. Ils ont, au contraire, un discours de dire « Ok, on a eu assez de malheur jusque-là, on peut commencer à s'amuser. »
Oui, et puis quand ils en parlent, bon, bien sûr, il y a des épisodes douloureux, mais il y a aussi des... quand ils expliquent qu'eux pouvaient passer parce qu'ils étaient musiciens, donc on les contrôlait pas, enfin, c'est beaucoup plus léger comme vision.
Même pendant la guerre, ils racontaient qu'ils se mélangeaient dans les buvettes et les fumoirs de shit avec les soldats, avec les... C'est vrai que l'aspect humain dans les bas-fonds, il est beaucoup plus présent, parce qu'il n'y a plus de casquettes et plus de grades et plus de quoi que ce soit. Et ça les permet de rentrer dans des rapports beaucoup plus naturels et auxquels nous pouvons s'identifier. Parce que quand on lit une histoire officielle, c'est beaucoup plus cadré, beaucoup plus poli, et tout le monde est beau, tout le monde est héroïque. Et moi, j'ai toujours eu du mal, parce que quand on grandit, on se dit « Ah, mais ils ont pu faire ça !» Et on se sent mal, parce qu'on n'est pas à la hauteur.
Une grande partie de l'histoire de l'Algérie se retrouve donc dans le film. C'est également une sorte de Buena Vista Social Club algérien. Et si le spectateur assiste sur l'écran aux retrouvailles de ces hommes qui, pour la plupart, ne se sont pas vus depuis des décennies, Safinès Bousbia, elle, a vécu cette expérience en vrai.
C'était un moment historique pour moi. J'ai eu de la chance vraiment de vivre ce moment de réunion parce que c'était drôle, parce que arrivé là-bas, ça faisait des mois que j'entendais ce que chacun va aller faire à l'autre. Parce que chaque fois que tu lui dis, il te dit « Oui, si je le vois, je vais lui dire ça, je vais lui faire ça. » Et au moment de la rencontre, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions et très viril.
Il y a beaucoup de pudeur aussi, oui, de retenue.
Beaucoup de retenue. Et après, au bout de quelques heures, on arrive, soi-disant, on va aller répéter. Oublie, on n'a pas répété les deux premiers jours. C'était « Mais tu te rappelles ! Et tu te rappelles ton père et mon père, tu te rappelles ! Tu te rappelles ! » Et c'était là pendant deux jours. Et après au restaurant, c'était très 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 impressionnant parce que c'est comme si une mémoire est revenue à neuf, quoi. Et c'est comme s'ils se sont jamais quittés. C'était impressionnant. Je l'ai réellement vécu, ressenti et vu.
Un aspect moins émotionnel du film, c'est apparemment vous avez rencontré beaucoup de difficultés pour tourner et puis pour produire le film. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi de cet aspect moins... le côté moins sympathique?
Non, c'est très compliqué. Un, parce que j'avais pas l'expérience, j'étais une simple architecte, je connaissais pas du tout le milieu. Deux, je connaissais pas le pays. Trois, le pays en lui-même est compliqué. C'est déjà trois facteurs qui suffisent, non, pour compliquer les choses. Ça a été très compliqué en termes d'autorisation, de trouver l'argent, les choses qui changent tout le temps, être une femme. Il y avait plein de facteurs. Mais après, il y avait des fois où je voulais tirer mes cheveux, me shooter une balle dans la tête. C'était juste la fin, j'en pouvais plus. Mais en même temps, quand j'allais voir ces hommes, et quand on entend un, il a été électrifié, l'autre, il a eu un enfant égorgé, l'autre... C'est dur de leur dire que c'est dur. C'est relatif, après. Le dur devient très relatif. Ça a été une source de force énorme pour moi, ces hommes.
Et justement, oui, comment ils ont réagi quand ils vous ont vu débarquer les uns après les autres, comme ça, chez eux, dans leur vie, finalement?
Une grande partie qui m'a toujours intriguée, ils me disaient « on savait que ça allait venir ». Moi, je suis pas très croyante, je sais pas, peut-être c'est un truc de... Mais c'était « oui, on savait que ça allait venir ce jour, allait venir, on était convaincus ». Ça, c'était la grande partie. L'autre partie, il y avait une petite partie qui était un peu parano, mais vous faites partie de quelle chaîne? Et pourquoi? Et comment? Et machin. Et, Et il y avait quelques-uns qui étaient « Non, je veux pas. J'ai eu trop de mal et je veux pas être déçue à nouveau. J'ai surmonté ma déception et j'ai pas envie. » Il y avait un en particulier, mais son histoire est très particulière parce que pendant les années 90, parce qu'il était musicien et chanteur, ils ont égorgé un de ses enfants parce que les fondamentalistes ont interdit le chant et la musique. Il a continué de jouer et du coup, ils ont égorgé un de ses fils devant lui, chez lui. Ça, c'est assez hard. Le deuxième, 2 ans après, se fait enlever et porter disparu jusqu'au jour. Et du coup, depuis, il a posé son instrument et il a décidé de ne plus rejouer. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit « hors de question ». Et je lui dis « mais tu sais, il y a tel et tel et tel avec moi ». Et à un moment donné, j'ai prononcé le nom de quelqu'un et il m'a dit « mais t'as pas honte, mais laisse les morts tranquilles ». Je lui dis « mais il est pas mort, je l'ai vu hier ». Il m'a presque craché dessus en me disant « mais tu pas honte et tout ». J'ai eu l'idée de ramener ce monsieur avec moi qui était déjà handicapé par la guerre. Et du coup, je l'ai ramené. Et ça, c'est un moment que j'aurais aimé avoir une caméra parce que c'était un moment impressionnant parce qu'il le touchait. Il le touchait, il pleurait et il le touchait. Comme s'il ne croyait pas qu'il était là. Et c'était un moment très émouvant. Et c'est là que c'est comme ça qu'il nous a rejoints.
Et le prochain film de la jeune réalisatrice sera consacré aux femmes en Algérie. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Safinès Bousbia d'en avoir été l'invitée. C'était Audrey Parmentier au micro. Vous pouvez retrouver ce forum des cultures sur le site internet dw.de/français dans la rubrique médiathèque. Bonne suite de programme sur nos ondes. Un grand yoyo.